L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans L'EM, votre quotidienne sur Transistor. Nous sommes en direct de midi à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. La baffe est un geste violent porté sur le visage d'une autre personne. Au sens figuré, elle désigne aussi un coup du sort ou un ressenti intense. Ajoutez-y une lettre, un L par exemple, et on obtient une baffle. Une enceinte bien utile à la radio, mais ça n'a plus rien à voir. Alors pourquoi tout ce baratin linguistique une veille de week-end ? Eh bien parce qu'aujourd'hui nous recevons la baffe. Hop, en pleine figure, mais sur le plateau. Oula, ça y est, je sens que j'ai perdu tout le monde. Cette baffe, c'est la baffe, l'association brestoise pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour les étrangers. Et c'est avec Pascale Monnier-Barreau qui est coordinatrice de formation. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Laura Huon qui est en service civique. Bonjour Laura.
Bonjour.
Bon alors, c'est quoi la baffe, Pascale ?
Alors la BAF, comme vous l'avez bien décrit, c'est une association qui dispense des cours de français pour les personnes d'origine étrangère. Et c'est une association qui s'est créée en 1999 sous l'impulsion un peu de la volonté de la mairie de Brest d'accueillir toute personne arrivant sur son territoire, issue d'une ancienne association qui s'était dissoute. Et voilà, avec quelques bénévoles, nous avons recréé la BAF, qui est parti d'un petit nombre de stagiaires. On recevait 70 personnes par an et aujourd'hui, on reçoit 500 personnes au mois de septembre, plus 250 personnes qu'on va accueillir en les intégrant tout au long de l'année.
Ah, c'est une grosse association. Il y a combien de salariés et puis combien de bénévoles ?
Alors, au niveau des bénévoles, je commence par les bénévoles parce que la BAF ne serait rien sans les bénévoles. C'est la force vive de l'association. On a à peu près 80-90 bénévoles par an. Et au niveau des salariés, on est parti de un petit emploi jeune à aujourd'hui à avoir trois coordinatrices, plus une personne à l'accueil, ce qui fait quatre permanents, plus on aime bien recevoir, comme vous l'aviez présenté tout à l'heure, une personne en service civique, Laura, cette année.
Et vous avez vous êtes à un seul endroit ou l'association se divise aussi un petit peu dans le Finistère ?
Alors, l'association ABAF a souhaité rester au cœur de Pont-à-Nézène, un quartier dit prioritaire, parce qu'en 2005, on a eu un événement un peu malheureux. On a mis le feu à nos locaux. On a mis 10 ans à retrouver un local. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des locaux mis à disposition par la mairie de Brest qui sont très agréables et on dispense des cours depuis toujours dans des centres sociaux de manière à être au plus proche du public, que ce soit à Bellevue, au Valire ou à Pénard-Créache.
D'accord, c'est quoi la mission principale de la BAF ?
La mission principale de la BAF, le but de l'association, c'est l'intégration des personnes d'origine étrangère. La formation linguistique, c'est un moyen d'y arriver, parce qu'effectivement, comment s'intégrer sans parler la langue ?
Elle est difficile cette langue. On a vu un petit peu en intro, avec un seul mot et une lettre en plus, on peut vite partir un petit peu dans tous les sens, ça peut être vite incompréhensible pour les étrangers. Alors comment vous faites tout ça ?
Alors effectivement, on a tous les niveaux à la BAF, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent déjà bien, qui viennent perfectionner leur niveau de langue. Mais bien sûr, ce qui pose un peu plus question, c'est comment fait-on avec des gens qui ne parlent pas un mot de français et qui n'ont aucune langue médiatrice pour parler avec le formateur.
Ça vous arrive d'avoir des gens qui ne maîtrisent pas du tout, enfin qui connaissent
tout
rien du
temps.
Français
ah, ça tout... nous arrive tout le temps, tous les jours.
Tous les jours.
On a énormément de débutants, donc des gens qui ne parlent presque pas en français. Des fois, quand on leur demande leur prénom, déjà, c'est un souci. Bien sûr, des fois, ils commencent déjà un petit peu à parler. Et on a des gens qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine. Donc, ça complique l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas du tout le français. Ils n'ont aucune langue qui peut servir de traduction avec le formateur. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas espagnol, par exemple. Et ils ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue.
D'accord. Et il y a combien de langues parlées au sein de la BAF ?
Oui, alors là, c'est une question un peu piège, mais il y a 150 nationalités ou plus, voilà, et beaucoup plus de langues, parce qu'on sait qu'en Afrique, par exemple, les gens peuvent parler des langues vraiment liées à leur communauté, ils peuvent parler 3 ou 4 langues déjà. Donc si on multiplie par le nombre de stagiaires, il y a des gens aussi qui parlent des langues du fait de leur déplacement à l'international. Donc je ne saurais dire combien de langues sont parlées, mais bien souvent, quand on inscrit les gens, on découvre le nom de nouvelles langues qu'on ne connaissait pas et qu'ils nous citent, on ne sait pas les écrire. Mais voilà.
C'est un vrai défi pour vous aussi.
Oui, voilà. Alors, pour les Afghans, là, on entend beaucoup parler de Pachtou, par exemple, des langues dont on ne parle pas forcément. Enfin, quand on n'est pas des grands spécialistes en langue, on n'entend pas parler de le peul. Bon, tout ça, c'est des langues plus connues en Afrique. Mais souvent, je vous dis, on est surpris par la réponse à la question « Quelle est votre langue maternelle ?»
Alors, mais, 150 nationalités, c'est ça ? 150 langues ?
Voilà à peu près, hein, suivant les années. On a une grande, grande diversité avec énormément de continents représentés. Mais ça, c'est aussi à travers les années. Les profils des stagiaires ne sont pas du tout les mêmes. Quand moi, j'ai commencé il y a 23 ans, on avait beaucoup de personnes d'origine maghrébine qui avaient travaillé dans le bâtiment ou des mamans qui avaient élevé leurs enfants et qui souhaitaient apprendre à lire et écrire. Il y a eu pendant une période beaucoup de femmes de l'Est qui se mariaient par agence matrimoniale. On avait donc des femmes qui arrivaient. Aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques, on a beaucoup d'Afghans qui fuient les talibans, beaucoup d'hommes isolés, beaucoup de demandeurs d'asile, mais pas exclusivement.
Et tous les gens qui viennent, ce sont tous des gens qui sont en situation régulière. Il y a des gens, ça peut vous arriver aussi d'avoir des gens qui viennent un peu là en cachette, je dirais.
Alors, en fait, nous, on accueille toute personne, quel que soit son statut administratif. Ce n'est pas de nos prérogatives de vérifier leur situation administrative. On accueille toute personne qui vit à Brest et qui souhaite prendre des cours de français. Voilà, mais je vous dis, c'est très diversifié parce qu'il peut y avoir des chercheurs d'Ifremer qui viennent prendre des cours du soir et qui sont en train de passer un doctorat. On peut avoir des gens qui viennent travailler ponctuellement, un Espagnol qui vient travailler sur le port de commerce, qui a un contrat et qui va repartir dans quelques temps. Sa femme souhaite également se former en français parce qu'ils sont là pour 1 ou 2 ans. Ça peut être aussi des mariages d'amour. Il y a beaucoup d'arrivées du fait de l'amour, des couples mixtes qui se forment et soit l'homme, soit la femme, ou l'homme vient rejoindre un homme aussi aujourd'hui, parce qu'on a aussi quelques personnes homosexuelles qui sont un peu persécutées dans leur pays et qui finalement fuient leur pays pour des raisons d'orientation sexuelle. Bon, c'est un peu à la marge, mais voilà, c'est des nouveaux publics qu'on rencontre. Et puis après, il y a toute la migration économique, politique, qui est très représentée à la BAF, et surtout la migration politique, les demandeurs d'asile.
Mais vous arrivez à accueillir tout le monde ? Vous êtes obligé de faire une petite sélection quand même ?
Ah non, on ne sélectionne pas les gens. On n'aime pas cette idée de sélection. Simplement, malheureusement, effectivement, vu le nombre de gens qu'on accueille, donc je vous disais qu'au mois de septembre, on reçoit 500 personnes. On a un mois de test et de positionnement pour les classer dans les 12 niveaux de langue qu'on a. Et ensuite, les groupes sont remplis. Et il y a encore des gens qui sont sur la liste d'attente. On essaye d'écluser cette liste d'attente en faisant des entrées, des sorties permanentes, parce qu'il y a des gens qui partent. Donc, on refait passer des tests tout au long de l'année. Et s'ils peuvent rejoindre des groupes d'un niveau qu'ils pourront suivre, on les intègre dans les cours. Voilà, on ne laisse personne de côté. On a aussi des permanences de travail qui servent un peu de sas d'entrée quand vraiment on n'a pas un cours disponible pour un niveau déterminé, parce qu'on souhaite aussi avoir une certaine cohérence pédagogique. Bon, alors, les formateurs se plaignent toujours que les groupes sont hétérogènes, mais on a quand même 12 niveaux de langue. Donc c'est comme à l'école, finalement, hein, dans une classe de CP, il y a des enfants qui arrivent en n'ayant jamais lu un livre à la maison, et d'autres qui ont déjà presque appris à lire avec leur grand frère ou leur grande sœur. Donc l'homogénéité pédagogique, elle n'existe pas en fait.
Et c'est quoi ces tests d'entrée ?
Alors, ces tests de positionnement, on fait connaissance d'abord, le grand numéro un de ces tests, c'est d'accueillir la personne, de l'inscrire administrativement, mais ensuite de la positionner dans un niveau du cadre européen de référence, c'est qu'il y a un cadre utilisé à l'international pour situer les gens à tel niveau, A1, on sait faire ci, on sait faire ça, à l'oral, à l'écrit, on sait se présenter, on sait lire une liste de courses. Donc, quelle que soit la langue parlée, on sait que les gens ont des compétences linguistiques et communicationnelles qui correspondent au niveau A1. Pour l'alphabétisation, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a moins de travail qui a été effectué sur l'alphabétisation parce que c'était une problématique qui était moins prise en compte par les politiques linguistiques, étant donné que, par exemple, apprendre le français aux étrangers, c'est aussi un peu le rayonnement de la France à l'international, à travers les alliances françaises, etc. Donc il y avait beaucoup plus de manuels et beaucoup plus de choses faites pour ce public qui est plus favorisé. L'alphabétisation, on a un cadre européen qui décrit le niveau en dessous du A1, c'est-à-dire le A1.1, qui concerne plus les gens qui savent ni lire ni écrire et qui n'ont pas été scolarisés. Et maintenant, on a des très bons manuels qui sortent dans des maisons d'édition pour nous aider à construire des cours pour les gens analphabètes à l'oral et à l'écrit.
Alors concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça,
ah
veut
oui,
dire
concrètement
quoi
de... ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est vraiment comme si on était dans une classe de CEP ? C'est ça ? On apprend à...
Non, on a déjà, pour toute personne qui est reçue à la BAF, elle a 2 fois 2 heures dans la semaine et des ateliers complémentaires. Donc, surtout, ce qu'il ne faudrait pas reproduire, c'est un enseignement du français comme on l'enseigne quand c'est sa langue maternelle. C'est une langue vivante. Donc, par exemple, la compréhension orale et la production orale prennent 80% des cours pour des débutants. C'est-à-dire qu'on va vraiment les mettre en situation de pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne. S'ils vont chez le médecin, s'ils vont acheter 1 litre d'huile dans une épicerie, on écoute des dialogues, on pose des questions de compréhension, on les réécoute plusieurs fois. Et ensuite, l'objectif, c'est que les gens puissent jouer ces jeux de rôle. Je suis à la pharmacie, j'achète des médicaments, je téléphone un secrétariat médical pour prendre rendez-vous. Je peux ensuite indiquer là où j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, des choses très pragmatiques et concrètes. Et ensuite, une fois que je suis allée chez le médecin, il faut encore que j'aille à la pharmacie et comprendre une posologie écrite. Vous voyez, c'est très, très concret. Et en même temps, on met en place la langue, on met en place la grammaire, on met en place la phonétique, on met en place le vocabulaire.
L'orthographe,
oui, qui est quand même très, très complexe en français, puisque pour le son O, on va avoir le O écrit O, A, U, E, A, U, etc. Donc ça, on va dire que c'est plus de la graphie phonique. Comment ce qu'on entend, on va le retraduire en orthographe. Et c'est tout à fait normal que les gens n'acquièrent pas l'orthographe dans leurs premières années d'apprentissage. Par exemple, en niveau A2, on peut très bien valoriser une production écrite, écrire un mail à quelqu'un pour l'inviter à un anniversaire, même si il reste beaucoup de fautes d'orthographe dans ce mail, il a réussi à obtenir son objectif de communication, il a réussi à inviter la personne ou il a réussi à le remercier, c'est déjà une grande victoire.
Alors, vous enseignez uniquement aux adultes ou aussi aux enfants ?
Alors non, on n'enseigne pas aux enfants au départ à la BAF. Effectivement, moi, quand je suis arrivée... En 99, le FLU, on en parlait, le français langue étrangère, on en parlait très peu. Il n'y avait pas de maîtrise proposée à l'UBO, ce qui maintenant est le cas. Il y a tout un secteur FLU à l'université de Brest occidentale. Ce qui fait que parfois l'éducation nationale nous appelait en disant « Voilà, j'ai un enfant qui arrive de tel pays, je ne sais pas comment faire ». Donc moi, je recevais les personnes, je leur indiquais des références de manuels, etc. Mais au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait que ce soit l'éducation nationale qui prenne en charge le problème parce qu'on n'avait pas moyen de répondre à tout le monde et que surtout, ce n'était pas forcément adapté. Donc maintenant, il y a des classes spécialisées, etc. dans l'éducation nationale. Pareil pour les mineurs étrangers. À un moment, on les a reçus et maintenant, aujourd'hui, c'est la GYM qui s'occupe d'eux.
C'est quoi, la GYM ?
Alors, c'est une association qui s'occupe des mineurs isolés et qui va les recevoir non seulement pour les former en français, en maths, de manière à les aider à pouvoir rejoindre une scolarité en France et surtout les accompagner parce que les mineurs isolés sont pris en charge par le département, sauf quand leurs papiers sont un peu incertains, qu'on ne leur reconnaît pas vraiment une minorité ou que quand ils passent de la position d'être mineur à majeur, parfois ils peuvent être encore accompagnés par le département par un contrat majeur. Mais parfois, du jour au lendemain, ils doivent se débrouiller. Donc l'objectif de cette association, c'est vraiment de les accompagner sur tous les plans, le logement, la scolarité, et c'était quelque chose que nous, on n'avait plus le temps de faire au sein de la BAF. Et puis, les publics sont assez différents entre des adultes qui ont de charge de famille et des adolescents qui souhaitent rejoindre une scolarité. Les problématiques étaient trop éloignées pour qu'on puisse bien faire notre travail.
Et vous accompagnez les adultes pendant combien de temps ?
Alors là, ça dépend de la personne. En fait, on a des gens. Moi, j'ai une Chinoise là que j'ai revue, qui avait commencé en 1. J'imagine que ça fait 4-5 ans qu'elle est là. Mais elle est en niveau C1, c'est-à-dire qu'elle pourrait enseigner le français à l'étranger aujourd'hui. Bon, elle a son mari qui travaille. Elle n'a pas de problème financier. Elle vient par faire son français à raison de 4 heures par semaine. Mais en fait, on n'a pas de règles. Les gens rentrent et après, on ne les oblige pas à en sortir.
Oui.
Ils restent autant de temps qu'ils veulent parce que la langue, c'est toujours perfectible. Et les gens qui parlent très bien le français, je me souviens, j'ai été marquée par une Hollandaise qui était d'ailleurs bénévole chez nous. C'est-à-dire qu'à la fois, elle suivait des cours de perfectionnement niveau C1, C2 et en même temps, elle dispensait des cours à des niveaux A1. Et elle me disait, mais tu sais, Pascal, quand on s'engueule avec son mari, c'est toujours lui qui a raison quand on ne sait pas notre langue maternelle. Parce que toutes les petites subtilités, et pourtant elle était traductrice, hein. Elle traduisait des livres du néerlandais au français. Elle me disait, c'est énorme de pouvoir obtenir toutes les compétences qu'on a dans notre langue maternelle. Et même si on a l'impression que les gens ont un très bon niveau, ils peuvent toujours l'améliorer.
Et comment vous enseignez le français ? C'est par des cours magistraux ou on peut utiliser aussi des petites techniques, genre des ateliers ou des mises en situation ? Peut-être comme un théâtre, alors, j'imagine des choses.
Voilà, surtout pas de cours magistraux, ça ne marcherait pas du tout.
Ça ne marcherait pas.
Ouais, surtout auprès de publics qui n'ont pas été scolarisés. Donc c'est vrai que plus on monte dans les niveaux, en général, plus les gens ont été scolarisés, voire ont eu des parcours universitaires. Pas exclusivement, parce qu'on a des gens qui partent de l'alpha et qui sont des comètes, des étoiles filantes qui nous éblouissent et qui réussissent à obtenir un niveau B1, B2, ce qui est absolument extraordinaire quand on n'a pas été scolarisé. Mais non, effectivement, comme je vous disais toujours tout à l'heure, beaucoup de choses pragmatiques avec des petits dialogues joués, des mises en situation, des sorties sur le terrain. Pas du tout de cours magistraux, parce qu'en fait... Une langue, comment apprend-on à parler quand on est enfant ? On apprend à parler quand on est enfant en entendant beaucoup la langue, ensuite en l'imitant. Et quand on imite quelque chose et que ce n'est pas correct, son papa ou sa maman vous dit « Non, on ne dit pas un oiseau des oiseaux, on dit un oiseau des oiseaux » sans expliquer la règle grammaticale. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais la grammaire de l'oral se fait de manière inductive et de manière... spontané dans le langage courant, et c'est en corrigeant les enfants qu'ils apprennent à parler correctement. Donc les adultes, c'est un petit peu pareil. En fait, il faut donner un modèle à imiter aux grands débutants. Ils imitent ce que vous dites, vous les corrigez, mais pas trop, parce qu'il faut mesurer entre favoriser l'expression orale sans tout le temps corriger les gens, sinon ils sont découragés. Je vous dis, s'ils ont rempli l'objectif de... pouvoir acheter du lait dans une épicerie, c'est déjà très bien. Même s'ils disent « moi l'aime, s'il vous plaît, merci, oui, bien, une bouteille », voilà, c'est déjà un objectif. Puis après, on corrige la langue avec mesure tout au long de la formation pour qu'elle ne se fossilise pas dans des erreurs. Parce que si les gens apprennent à se débrouiller, moi j'ai vu des gens qui avaient appris à se débrouiller sans prendre de cours de français, qui, au bout de 5-6 ans, parle toujours sans mettre d'articles, sans mettre de pronoms, sans mettre de... Tous ces petits mots qui font la fluidité de la langue, bah, c'est très pénible à écouter, il faut faire beaucoup d'efforts pour les comprendre, et ça les pénalise.
Alors du coup, comment vous faites quand on a une période de crise, comme le Covid, où on ne peut plus interagir physiquement les uns avec les autres ?
Alors, moi, j'ai été absente quelques temps. J'ai eu un congé sabbatique qui m'a permis de faire autre chose. Mais mes collègues ont assuré ça d'abord avec les jauges qui étaient mises dans les centres sociaux. Maintenant, on avait quand même le droit d'être en présentiel. Mais il a fallu vraiment réduire le nombre de gens qui suivaient les cours dans chaque classe pour respecter les distances. Ensuite, on a demandé aux gens de mettre des masques. Et quand vraiment le présentiel n'était pas possible... on a mis en place des cours pour ceux pour qui c'était possible en distanciel, en utilisant l'informatique ou en utilisant les téléphones. Le groupe WhatsApp, pour nous, c'est génial. C'est un outil qui a vraiment permis de créer des grandes cohésions, de mettre les supports audio par WhatsApp, de permettre aux gens de réviser chez eux. Donc voilà, il y a tous ces petits outils de la technologie, soit informatique, soit, je vous dis, les téléphones. Parce que souvent, nos stagiaires, ils n'ont que le téléphone. Et bien sûr, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc, c'est plus par le biais du téléphone qu'on peut réussir à faire des choses à distance.
D'accord. Et alors, on parlait tout à l'heure des homosexuels, on parlait aussi des femmes. Est-ce qu'il y a, comment vous faites quand vous êtes face à un stagiaire qui a subi des violences, des difficultés ?
Alors, c'est là qu'on doit connaître nos limites et travailler aussi en partenariat, le CIDF. Là, actuellement, on a vu aussi une association qui... le nom ne me revient pas tout de suite, mais qui s'occupe des minorités sexuelles. On a une collègue qui s'appelle Christelle, Christelle Josekel, qui s'occupe de l'insertion professionnelle, mais qui reçoit les stagiaires en individuel et qui peut aussi les orienter pour tout problème social, de logement, tout ce qui est frein à l'emploi, mais pas exclusivement, et tout problème... Voilà, effectivement, ça nous est arrivé bien souvent d'accompagner des femmes au CIDF ou pour un dépôt de plainte au commissariat. Ce n'est pas notre rôle essentiel, mais on essaye de prendre la personne dans sa globalité et de l'aider à résoudre ses problèmes pour pas... Parce que les gens sont isolés, donc déjà savoir quoi faire, à qui s'adresser, comment y aller, pouvoir en parler, pouvoir... Souvent, s'il y a un bénévole, peut les accompagner. Quand ils ont confiance dans leur formateur, ils en réfèrent toujours à la structure, mais c'est important cet accompagnement.
Alors, vous faites de l'accompagnement aussi avec des bénévoles, et puis ça va être à votre tour, Laura.
Je voulais juste dire que l'association dont tu parles, il me semble que c'est les Pétrolettes qu'on avait rencontrées.
Qu'on a déjà reçu plusieurs fois à la radio.
Exact.
Et donc, vous êtes en service civique.
C'est ça.
Alors, pourquoi la BAF ?
Eh bien, je me destinais vers les métiers de la pédagogie en général. Donc, j'ai pu effectuer des stages avec la licence dans des écoles et je me suis rendu compte que le public des enfants ne m'était pas destiné. En tout cas, je ne me sentais pas assez apte à gérer des cours pour les tout-petits. Et faute de chance, je n'ai pas trouvé de master pour la rentrée. J'ai commencé à chercher un peu les services civiques dans le domaine de la pédagogie et j'ai découvert la BAF. Qui est une association qui s'occupe des personnes étrangères pour leur apprendre le français. Et je ne connaissais pas du tout. Je n'avais aucune notion dans le FLE, le français langue étrangère. Et donc, je me suis formée au tas sur l'année grâce aux formateurs, aux bénévoles, aux salariés qui ont pu m'apprendre de leur expérience. Et comme elle disait Pascal, en se référant au cadre européen commun de référence, donc des langues, j'ai pu adapter mon apprentissage pour le public adulte. Mais comme on disait, il y a plusieurs freins. Donc la diversité de la culture, ils n'apprennent pas tous de la même façon. Pour la phonétique aussi, on n'a pas tous la même phonétique. Donc par exemple, la dernière fois, j'ai passé peut-être 2 heures à expliquer comment on utilise le son de la lettre S, donc, qui se prononce parfois Z. Et il y en a qui n'ont pas la notion du son Z, justement. Et c'est assez impressionnant. Mais c'est une expérience que je souhaite conseiller à tout le monde, en tout cas, puisque la BAF est une de mes meilleures expériences depuis que je suis dans la pédagogie. Voilà.
Vous avez rencontré des personnes qui vous ont touché ?
Eh bien, beaucoup, en effet. De par l'obtention des papiers qui n'est pas toujours évidente. Le fait qu'ils se donnent à fond, qu'ils s'acharnent pour pouvoir... prouver d'un récit qu'ils ont vécu telle ou telle chose et qu'ils n'ont pas l'accord des papiers par rapport à quelques détails malheureux. Et après, je ne suis pas très expert dans le domaine, mais je sais que ça me rend parfois très, très triste le fait de voir qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent alors qu'ils le méritent, puisqu'on a un attachement envers ces personnes au fil de l'année.
Ouais, ils sont très confidents, ils parlent beaucoup.
Ça dépend qui. On a, oui, des stagiaires qui... vont se confier de façon... Souvent les femmes qui vont se confier.
Ouais.
Et certains hommes qui ont plus de mal à dire d'où ils viennent, parler de ce qu'ils ont fait avant en cours. Comme l'Élysée Pascal, on va apprendre à se présenter et commencer à parler du passé, puisque ça fait partie du cadre référentiel. Mais ils ne seront pas toujours expressifs par rapport à ce qu'ils ont pu vivre avant. n'est pas toujours évident pour eux.
Et quand ils apprennent à communiquer un petit peu en français, ils arrivent un petit peu à lâcher prise avec, on va dire, leur timidité, entre guillemets.
Alors ça s'apprend. J'ai des stagiaires, on ne les entend pas pendant le premier mois. Ils vont être là, ils vont prendre du recul, ils vont observer surtout. Mais nous, on va les amener justement à participer, on va les désigner. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire imposer. C'est tous les collègues le conseillent d'imposer pour qu'ils puissent justement évoluer dans la langue. Mais ouais, c'est quelque chose qui s'apprend.
Bon, c'est une bien belle association. On va devoir arrêter là, le temps passe. Merci beaucoup, Pascale et Laura, d'être venues à l'émission.
Merci de nous avoir reçus.